RFI, il est 9h30 à Mandalay, 5h à Paris et 3h en temps universel.
Guillaume Ouattara.
L'heure d'un nouveau point sur l'actualité avec à la une en Birmanie, l'espoir de retrouver des survivants qui s'éloignent 3 jours après le passage du séisme et le bilan qui ne cesse de s'alourdir. On compte désormais plus de 1700 morts, des blessés par milliers et un risque d'épidémie imminent. Une urgence maximale selon l'OMS. En Corée du Sud, 30 morts, 48 000 hectares brûlés. Un simple rituel ancestral à l'origine du pire incendie de l'histoire du pays. Les États-Unis et Donald Trump qui menacent l'Iran d'une riposte foudroyante, bombardements et sanctions douanières si aucun accord n'est trouvé sur le nucléaire. Et puis au Rwanda, durcissement du ton face à la Belgique. Kigali interdit toute coopération avec les institutions belges aux ONG qui opèrent sur son sol. On ouvre donc avec la Birmanie et cet espoir qui s'amenuise à mesure que les heures passent. 3 jours après le séisme de magnitude 7,7 qui a frappé près de Mandalay, les secours peinent à retrouver des survivants dans les décombres. Le bilan dépasse désormais les 1700 morts. Il faut aussi composer avec la chaleur qui complique les opérations de secours. Face à l'ampleur du désastre, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut niveau d'alerte. Elle alerte sur un risque d'épidémie et appelle à réunir d'urgence 8 millions de dollars, 3 tonnes de matériel médical ont d'ores et déjà été envoyés. À Mandalay, deuxième ville du pays, les sinistrés s'organisent tant bien que mal. Témoignage de Madame Toutoulouine au micro de Grégoire Motte.
Le tremblement de terre n'est pas encore fini complètement. Chaque temps, 3 heures, il bouge encore. Et la nuit, les gens n'osent pas dormir dans la maison. Et donc, ils dorment dans les terrains de football. Ou bien qu'ils dorment dans la voiture à l'extérieur de la maison. Et puis, ça fait 3 jours qu'on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité. Pour la nourriture, pour l'eau, le gouvernement ne peut pas faire encore parce qu'ils ont occupé avec des dégâts, des bâtiments qu'ils ont détruits. On a vu beaucoup de dégâts. Il y a des bâtiments qui ont tombé complètement et puis il y a des bâtiments qui ont penché à une autre bâtiment. Et puis, il y a des bâtiments qui n'ont plus de rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est dans la terre. Les murailles des monastères s'est tombé. Il y a des routes qui ont bloqué aussi, ouais.
Un témoignage de Toutoulouine, habitante de Mandalay, au micro RFI de Grégoire Motte. De son côté, la Thaïlande pense elle aussi s'épeler. Au moins 18 personnes ont perdu la vie dans le nord du pays à la suite du séisme. Les autorités ont mobilisé des unités de secours pour participer aux recherches dans les zones sinistrées. En Corée du Sud, 30 morts et 48 000 hectares ravagés en une semaine. Ce sont les pires incendies jamais enregistrés dans le pays. Un homme de 56 ans est soupçonné d'avoir déclenché l'un des feux lors d'un rituel funéraire. Il aurait brûlé des branchages au-dessus de la tombe de ses grands-parents. Il n'a pas été placé en détention, mais fait l'objet d'une enquête. Notre correspondante Camille Ruiz s'est rendue à Myeongdi-jini, un village agricole très touché. C'est à 200 km au sud-est de Séoul.
Au milieu des ruines noires de Sui, Oh Nam-soon est venu prendre des photos de la maison de ses parents.
Là, c'était la cuisine. Il y avait un évier, des étagères et notre frigo. Tout a brûlé. Et tout ce qui pend ici, c'était la salle de bain. La machine à laver a complètement fondu. Il n'y a plus que de la rouille. Tout s'est effondré.
Quelques pas plus loin, le maire du village, Lee Ho-un, 61 ans, déambule à travers les débris. De sa maison, il ne reste que quelques tôles de son toit et enfouit dans un tas de cendres les os de ses poules et une corne de chèvre. Elles ont été prises au piège par les flammes.
Ça, c'était ma maison. J'avais mon entrepôt là-bas et là il y a une caméra. Alors j'ai regardé les vidéos en direct jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus.
Le fermier est né ici et a grandi au milieu de ses champs et de ses collines désormais calcinées. Par miracle, certaines terres ont été épargnées. 3 hommes pulvérisent déjà des herbicides sur une de leurs cultures d'oignons. Ils retourneront ce soir au gymnase de la ville d'Andong, transformé en abri provisoire. Le gouvernement prévoit une aide financière urgente à destination des victimes touchées par les incendies. Ces feux sont déjà considérés comme les plus destructeurs de l'histoire de la Corée du Sud. Camille Ruiz, Andong, RFI.
Il est 23h04 à Washington, 3h04 en temps universel. Donald Trump hausse le ton. Le président américain s'est dit dimanche furieux contre Vladimir Poutine après les propos du président russe qui évoquait une possible administration transitoire en Ukraine sous l'égide de l'ONU. Dans le même temps, il maintient la pression, Donald Trump, sur Volodymyr Zelensky, qui l'accuse de freiner un accord sur les terres rares. S'il ne signe pas, il aura de gros problèmes. Le ton est donné. Des gros problèmes, le président américain, il en propose et il en promet aussi à l'Iran. S'il ne signe pas, il y aura des bombardements. Il menace de représailles comme ils n'en ont jamais vu si aucun accord nucléaire n'est trouvé. Donald Trump qui évoque aussi des sanctions économiques secondaires visant les acheteurs du pétrole iranien. Téhéran refuse tout dialogue direct mais confirme des discussions indirectes via Oman. Le président iranien Massoud Pezeshkian précise que la réponse à la lettre de Trump a bien été transmise par ce biais en accord avec le guide suprême Ali Khamenei.
Téhéran refuse des négociations directes avec les Américains, mais accepte des négociations indirectes, a déclaré le président iranien, alors que Donald Trump a menacé de nouveau l'Iran de bombardements sans précédent en cas de non-accord sur le dossier nucléaire.
Le guide suprême iranien a souligné que des négociations indirectes pouvaient avoir lieu. Nous n'avons jamais fui les négociations. C'est le non-respect des engagements qui nous a créé des problèmes. Les Américains doivent nous prouver qu'ils peuvent créer la confiance en ce qui concerne les décisions.
Une allusion à la sortie du président Trump de l'accord nucléaire de 2015 lors de son premier mandat et les sanctions qui ont suivi. Cet assouplissement de l'Iran intervient alors que la situation économique est de plus en plus difficile avec une chute vertigineuse de la valeur de la monnaie iranienne depuis 6 mois. Un euro valait 600 000 rials et vaut aujourd'hui presque le double, ce qui a provoqué une inflation devenue incontrôlable avec un mécontentement social et politique dans toutes les couches de la société. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
Au Rwanda, la rupture avec la Belgique se fait de plus en plus franche après la fin des relations diplomatiques. Kigali va plus loin et interdit toute collaboration entre ONG, fondations ou organisations religieuses et les institutions belges. Tous les projets doivent être stoppés immédiatement sous peine de sanctions. Le motif invoqué, un soutien présumé de Bruxelles à la RDC face au M23. Mais ceux qui en pâtissent, ce sont les habitants, Lucie Mouillot.
On ne s'attendait pas à ce que la rupture diplomatique touche la société civile, regrette le responsable d'une organisation partenaire de la coopération belge. La majorité de ses activités sont désormais suspendues dans l'attente de nouveaux fonds pour les reprendre. Au Rwanda, l'agence de développement belge Enabel prévoyait jusqu'en 2029 un budget de 95 millions d'euros dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'urbanisation et plus de 17 millions dans des projets sur la protection sociale. Pour certaines ONG déjà impacté par la suspension mondiale des aides américaines, l'incertitude plane sur la continuité des programmes. Il est encore trop tôt pour parler des conséquences, affirme le directeur d'une organisation à la recherche de solutions auprès d'autres partenaires, mais le contexte tendu des sanctions est inquiétant, poursuit-il, craignant d'autres mesures similaires avec d'autres pays. Commentant la rupture des relations diplomatiques, le ministre rwandais des Finances, Youssouf Mourangwa, a la semaine dernière affirmé ne pas être inquiet et que le vide laissé dans les secteurs critiques sera couvert par le gouvernement. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
En France, à partir d'aujourd'hui, un nouveau droit entre en vigueur pour les enfants nés d'un don de gamètes, celui d'accéder à leurs origines une fois majeurs. Ce droit met fin à l'anonymat des donneurs, désormais obligés de consentir à la divulgation de leurs données. Explication pour RFI, Sylvie Coffi.
Cette loi bioéthique est un droit réclamé de longue date par tous les enfants nés d'une procréation médicalement assistée, une PMA. Elle leur donne accès à leurs origines. Une fois adultes, ils auront ainsi accès à l'identité du donneur ou à des données dites non identifiantes comme l'âge, certaines caractéristiques physiques, l'état de santé, la situation professionnelle ou familiale, voire une lettre qui leur serait adressée. Depuis septembre 2022, ce droit est progressivement mis en œuvre. En effet, tout nouveau donneur de gamètes, spermatozoïdes et ovocytes doit transmettre ces informations avant de procéder au don. Cependant, les autorités ont tout de même prévu une dérogation concernant les embryons non implantés conçus avant 2022 afin de permettre aux futurs parents de continuer leur parcours avec. Des parents qui devront en revanche signer un consentement disant que leur enfant ne pourra pas connaître son donneur à sa majorité.
Merci pour ces explications, Sylvie Coffi. Notez enfin que c'est aujourd'hui que le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Marine Le Pen, la figure de proue du parti, risque jusqu'à 5 ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire, ce qui la prévoit la présidentielle de 2027. Il est quasiment 3h10 en temps universel. Tout de suite, un jour au village sur RFI. Retour de l'information dans 20 minutes sur la Radio du Monde.